Justement, on va se poser la question sur l'Europe. Est-ce que c'est le moment d'accélérer un petit peu ses investissements en Europe et de sous-pondérer la partie américaine? Bonjour Laurent Chauder, merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. Alors hier matin, en plus, on était en direct sur Good Morning Market. On voyait l'Europe gagner 1,7%, quasiment 2%, avec donc Donald Trump qui a annoncé un accord avec l'Iran. Et puis au fur et à mesure de la séance, en fait, ça a un peu fait seulement 0,4% pour le CAC 40 quand le Nasdaq a gagné 3%. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe? Est-ce que cet accord, qui devrait être signé en fin de semaine, pourrait inverser la tendance? En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué d'avoir un avis clair.
Alors, je pense que, premièrement, il ne faut pas forcément être étonné que dès la première séance, la nouvelle tendance ne soit pas marquée, parce qu'on a vu qu'il y avait eu des faux départs depuis 2-3 mois dans les négociations. Oui. Mais je pense que si c'est confirmé, c'est effectivement un signal important d'inversement de tendance et probablement de revenir sur l'Europe. Vous le disiez en introduction, mais effectivement, l'Europe a fortement sous-performé depuis le début du conflit au Moyen-Orient, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On avait très bien démarré l'année et on se souvient que le début d'année, c'était l'histoire sur le déploiement du plan allemand, les taux de la BCE qui ont baissé, donc ça devrait faire repartir notamment le marché de la construction. Et à l'inverse, une Fed qui allait devoir monter les taux. Donc tout était fait pour l'Europe. Et puis, le Moyen-Orient a cassé la dynamique parce que le Moyen-Orient a inversé l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le prix du gaz, le prix du pétrole augmente. Attention, quelle est la région la plus impactée par ça? C'est l'Europe et pas les États-Unis. Et attention au risque de récession. Et qui n'est pas impacté par la récession? C'est l'IA. Et donc, tout d'un coup, il y a eu des flux inverses. Depuis le début de l'année et depuis l'année dernière, chaque semaine, vous aviez des flux souscripteurs sur l'Europe. Et dès que le conflit a démarré, les flux ont été vendeurs sur l'Europe. Et pour avoir parlé à beaucoup de gestionnaires d'allocation d'actifs, la plupart disaient la même chose. Ils avaient démarré l'année sur pondéreur Europe et ils ont vendu dès que le conflit a commencé. Donc, je ne serais pas étonné que si le conflit se termine, l'arrêt du conflit est signé vendredi, on aura une inversion de tendance. Et à mon avis, ce qui n'a pas fonctionné commencera à bien fonctionner. Parce que l'arrêt du conflit, ça veut dire moins de pression inflationniste. Parce que moins de pression sur les prix du pétrole et du gaz, moins de pression sur les hausses de taux. Donc on arrête ce risque-là. Et à partir de là, je pense qu'il y a au moins deux segments qui devraient fonctionner plutôt bien en Europe. C'est tout ce qui est construction, parce qu'on va reparler du déploiement du plan allemand. Et quand vous vérifiez, parce qu'on n'en parle plus, on parle que du Moyen-Orient, mais quand vous vérifiez les dépenses du plan allemand depuis le début de l'année, vous êtes tout à fait dans l'objectif de l'année entière. Ce qui est important, parce que les gens disaient l'année dernière, ils n'ont pas assez dépensé, si ça se trouve, ils ne vont pas dépenser ce qu'il faut. Quand vous regardez de janvier à fin avril, ils ont dépensé 0,8 points de PIB de plus que l'année dernière. Et sur l'année entière, donc s'ils font leur objectif, ce qui est le cas, ça va être 1,5 point de PIB allemand. Donc ce n'est pas négligeable. Donc on va reparler de ça. Et du coup, ce secteur, notamment de construction et infrastructure, devrait bien fonctionner. C'est pour ça que nous, on a des gros investissements dedans. Nos plus grosses participations, ça inclut Saint-Gobain, Vinci et Fage. Et puis un autre segment qui a beaucoup souffert, qui à notre avis devrait se reprendre, c'est tout ce qui est consommation courante, donc visibilité, rentabilité, peu de cyclicité, parce que c'est des métiers, donc dans tout ce qui est alimentation, boissons, produits du quotidien, hygiène, etc. C'est des métiers qui sont très rentables, très visibles et qui sont très sensibles aux taux d'intérêt. Et donc, si la pression haussière sur les taux d'intérêt diminue, ce segment qui a peu marché, en fait, devrait bien performer.
Oui, justement, j'allais y venir au taux d'intérêt parce que dernièrement, ce que retient le marché, c'est la BCE a remonté ses taux. Là, aujourd'hui, certes, le marché actions est proche de ses records historiques, l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 600, mais le marché obligataire, lui, il n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-guerre. C'est-à-dire que le Bund est toujours à 3% ou presque, le 10 ans français à 3,6. En début d'année, on était proche des 3,2, 3,3. Donc, c'est pas énorme, mais en attendant, on a un marché obligataire qui redoute encore et toujours cette inflation et sur la partie action, qui redoute des conséquences, notamment pour le secteur de la construction, typiquement.
Alors, et c'est vrai parce que de toute façon, ils ne vont pas retourner tout de suite au taux d'avant, parce qu'il faut quand même cranter qu'il y a eu un mouvement d'inflation qui a été fait. Et d'ailleurs, nous, quand on parle aux entreprises, elles nous disent toutes que dès le mois d'avril, mai, elles ont commencé à monter les prix pour compenser leur hausse de coûts. Donc on va avoir de l'inflation dans le système au deuxième semestre, et c'est pour ça que la BCE a été contrainte de monter les taux. Mon propos, c'est que le risque d'un dérapage des hausses de taux à la hausse, à mon avis, est derrière nous, puisque si le conflit s'arrête, le risque d'un dérapage des prix du pétrole est derrière nous aussi. Et comme le marché raisonne beaucoup sur la dérivée seconde, plutôt que le niveau absolu des choses, c'est ça qui pourrait faire que ce segment des biens de consommation courants puissent repartir.
marché américain, faut pas le négliger, hein, loin de là, puisque là aussi on peut trouver des aspects défensifs, mais également des valeurs de la construction. Enfin bon, il n'y a pas que l'intelligence artificielle du côté de Wall Street, même si ce sont ces valeurs qui, ces dernières semaines, ont tiré la performance. Comment aujourd'hui on peut diversifier son portefeuille? Vous avez cité des exemples en Europe, mais aussi sur d'autres marchés.
Alors nous, on est principalement sur l'Europe, donc je m'aventurerai pas trop sur l'émergent, etc. Mais un autre secteur que nous on privilégie et qui, à mon avis, est probablement vrai aussi pour d'autres régions, c'est le secteur de la santé, notamment tout ce qui est biens d'équipement médicaux. Quand vous regardez ce secteur, il est au plus bas depuis 20 ans quasiment. Là où historiquement il avait une prime de valorisation d'à peu près 50-60%, on est quasiment à parité avec le marché européen. Vous avez une conjonction de choses des dernières années, les inventaires qui étaient trop élevés post-Covid, les tarifs de Trump notamment, les pressions inflationnistes. Tout ça a fait que le secteur s'est beaucoup dégonflé. Et aujourd'hui, vous avez des très beaux métiers, leaders mondiaux, je pense dans l'imagerie médicale, dans l'ostomie, etc., dans la dialyse, qui sont à des valorisations que vous n'avez pas vues depuis 15-20 ans. Donc là, c'est vrai en Europe, mais à mon avis, c'est probablement vrai dans d'autres régions aussi.
Oui, parce que c'est l'ensemble du secteur de la santé qui a été boudé. Même du côté de la Suisse, typiquement, l'an passé, le marché n'a pas du tout acheté les valeurs suisses parce qu'il y avait une grosse incertitude sur ce secteur pharma, secteur qui offre de la visibilité. Après, il faut pouvoir choisir les bonnes valeurs, dans le sens où on le voit à chaque fois, tout se fait sur certaines annonces et sur le leadership, notamment sur certains blockbusters.
Alors c'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a, chez BDL, on n'investit pas dans les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est compliqué de modéliser le prochain médicament, quand il arrive dans le générique, etc. Donc on se concentre sur les équipementiers médicaux. Donc c'est pour ça que je parlais de Philips, de Siemens et Seniers par exemple, de Fresenius dans la dialyse, de Biomérieux dans les tests, etc. Donc là, c'est des métiers où vous n'avez pas de problème de générique, et par contre, c'est des métiers qui restent très oligopolistiques, avec souvent 2-3 acteurs qui contrôlent 80% du marché, et des barrières à l'entrée assez fortes, parce que vous avez des problèmes de réglementation, de conformité pour mettre vos produits sur le marché.
Merci beaucoup Laurent Schauder, je nous ai accompagné ce matin pour nous donner des idées d'investissement, des pistes pour diversifier son portefeuille. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement de BDL Capital Management.